Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau rebondissement dans ce feuilleton qui nous occupe depuis déjà 3 mois. Les tags antisémites inscrits sur la sculpture Dirty Corner d'Anish Kapoor, installée dans le parc du château de Versailles, ont été masqués. Samedi 19 septembre, a-t-on lu dans Le Monde, un tissu noir les a recouverts à la demande de la justice qui a sommé les responsables du château de retirer sans délai ces inscriptions de la vue du public, estimant qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Le juge des référés avait été saisi par l'association Avocats sans frontières et un conseiller municipal d'hiver droite de Versailles, Fabien Bouglé. Anish Kapoor nous a ensuite appris Le Figaro à riposter lundi matin en décidant de recouvrir ses tags à la feuille d'or. Vandalisée à 3 reprises depuis son inauguration, l'œuvre installée sur le tapis vert au cœur du parc royal a été transformée par une demi-douzaine d'artisans utilisant des pinceaux pour apposer les feuilles d'or. Dans un entretien sur le site du Figaro dimanche, Anish Kapoor disait avoir trouvé la réponse royale. La réponse républicaine côté législatif, ce seront 5 mots, pas plus. Il forme, explique Michel Guérin dans Le Monde, l'article 1 d'un projet de loi qui sera débattu à l'Assemblée nationale du 28 septembre au 1er octobre et dont l'objectif est de défendre la culture. Ces mots, quels sont-ils? La création artistique est libre. Un vrai slogan, une incantation. Il y a peu de phrases aussi lyriques dans le texte de loi, plutôt des données techniques sur un tas de secteurs, création, patrimoine, spectacle, archéologie, bibliothèque, architecture, archives, musées. Les lois culturelles étant rares et le temps du Parlement compté, on y a empilé tout ce qu'on veut. Et l'on verra bien, après le vote, ce qu'il restera du millefeuille. Les 5 mots, en tout cas, devraient rester. Donc, la création artistique est libre. Elle ne l'était pas dans notre terre des Lumières, patrie des lettres et des arts, s'interroge le chroniqueur Culture du Monde. Elle l'était, mais pas gravée dans le marbre. Et les milieux culturels la réclament. Il est crucial d'en faire une liberté fondamentale, dit Patrick Bloch, rapporteur du texte, et de la distinguer de la liberté d'expression, ajoute l'avocate Agnès Tricouard, spécialiste de l'art. Trop de gens s'en prennent à des œuvres alors que la création échappe au discours. Un grand principe ne fait jamais de mal et parfois du bien. Ainsi, cet article 1 dans sa forme singe un autre article 1, celui de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui a laissé des traces. L'imprimerie et la librairie sont libres. Cet article 1 vise aussi à mettre du baume au cœur des artistes, à les rassurer dans un contexte pesant. C'est une nécessité dans la France de l'après-Charlie, a justifié Fleur Pellerin, ministre de la Culture. 5 mots érigés en potion magique, cela en fait rigoler plus d'un. Passons sur le fait que cet article 1 est bien vague et qu'il ne définit pas la création artistique. Oublions les gourmands de la sémantique pour qui ce n'est pas tant la création mais le créateur qu'il faut défendre. La CFDT, le 7 juillet, dénonce un texte indigne qui assimile la création au rang d'objet de consommation ou objet marchand. L'essentiel pour beaucoup est que cet article 1 n'enrichit en rien l'arsenal juridique en place, loi sur la liberté d'expression et loi pour la contenir. Ce serait juste une phrase sympathique et un peu démago. C'est l'avis de la sociologue de l'art Nathalie Hennich du CNRS. La création est libre, dit-elle, comme la marche à pied est libre. Nous savons bien qu'un livre, un tableau ou un spectacle, à partir du moment où ils se trouvent dans l'espace public, sont soumis à des lois, interdiction de propos racistes ou de messages pornographiques par exemple. Un créateur n'est pas exonéré de contraintes, mais cet article 1 risque de faire progresser l'idée du contraire, estime-t-elle. L'artiste aurait une impunité juridique que d'autres catégories de personnes n'ont pas. Ce n'est pas nouveau. Depuis le 19e siècle, un imaginaire commun s'est imposé selon lequel l'artiste aurait droit à des égards particuliers. Cette loi, si elle concrétise cela, serait un retour au privilège, un paradoxe pour un gouvernement socialiste. Ces privilèges seraient perçus comme une injustice par beaucoup et pourraient provoquer encore plus de réactions hostiles à la création. Bref, les artistes ont tout à perdre dans cette affaire. On peut être sociologue et bête comme ses pieds, tacle Christophe Tantchev dans Politis. La directrice de recherche au CNRS semble avoir mécompris de quoi il retourne. Il ne s'agit pas, par exemple, de permettre aux écrivains de forniquer avec des enfants, mais de protéger le fait de créer un personnage pédophile sans que les ligues de vertu dénoncent une incitation au crime et envoient devant les tribunaux ces auteurs suspects de mœurs déviantes. Et c'est vrai pour toutes les œuvres, en particulier celles qui vont titiller tout ou partie du corps social là où cela gratte, déclenchant des ires incontrôlées et des actes de censure. Nathalie Hennich n'aurait-elle pas vu que l'époque en matière d'art est plus propice au réflexe d'intolérance qu'au débat critique? C'est ce qu'elle fait en sous-entendant dans Libération du 12-13 septembre qu'Anish Kapoor n'a qu'à s'en prendre au caractère transgressif de son œuvre installée à Versailles si celle-ci a été vandalisée à 3 reprises. reprises. On verra, conclut Michel Guérin dans Le Monde, ce qui ressortira du débat à l'Assemblée. Plus largement, il traduit la rupture de temps entre le créateur et la société. Le premier, libre dans sa tête, a toujours un temps d'avance sur la seconde. Quand l'architecte Le Corbusier anoblit le béton ou l'artiste Casimir Malevitch peint un carré blanc sur fond blanc, ils sont libres, il faut les protéger. Mais ce n'est pas une loi qui fera qu'ils seront acceptés, c'est un travail pas à pas de pédagogie. Tout de suite, les gros mots.